France Inter.
Merci d'écouter France Inter, il est 13h. Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Quand l'intelligence artificielle permet de retrouver la trace d'une fugitive, cela se passe en Allemagne, un journaliste a localisé cette femme grâce à une photo vieille de 30 ans. On peut s'en réjouir, on peut aussi s'en inquiéter, on va vous dire pourquoi dans un instant. À suivre encore, la ministre de l'Éducation nationale qui ne parle plus de groupe de niveau pour la rentrée prochaine. Bonjour Sonia Princé.
Bonjour.
Le dispositif promis pour septembre va être considérablement allégé.
Oui, il sera possible de faire cours en classe entière à certains moments de l'année. Le groupe des plus faibles ne sera plus limité à 15. Chaque collège choisira son organisation.
Vos précisions dans quelques minutes. Nous parlerons aussi de la rénovation thermique. Qui patine, chute du nombre de dossiers MaPrimeRénov déposés depuis le début de l'année. Le nouveau dispositif est-il trop complexe? Le représentant de l'Union des propriétaires nous donnera son sentiment. Nous irons également à l'Elysée. Emmanuel Macron face au chef de parti qui l'étrille depuis quelques jours après ses déclarations sur l'Ukraine. Rencontre ce matin. Et puis du changement pour les sages-femmes. Bonjour Victor Dolande.
Bonjour Jérôme.
Cela concerne les IVG.
Oui, l'accès à l'interruption volontaire de grossesse instrumentale va être facilité pour ces soignantes. Elles n'auront plus besoin d'être encadrées par 4 médecins à partir de la fin du mois de mars. C'est la ministre Catherine Vautrin qui l'a annoncé ce matin.
A tout de suite. À partir de 13h30, une jeune femme sur les traces de son père, Bérangère Loiseau, à la tête désormais du groupe Bernard Loiseau, le grand chef bourguignon disparu il y a 21 ans. Elle ouvre un restaurant au Japon dans quelques jours. On parle de son parcours et du poids de l'héritage avec elle et avec vous. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. Que faire des surplus de vin dans notre pays, sur production et solutions, avec Marie-Luce Ribot du journal Sud-Ouest. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. L'acteur Raphaël Persona demande les Strokes à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer 7 heures avec nous.
France Inter.
C'est un nouvel exemple du développement sous nos yeux des capacités de l'intelligence artificielle. La semaine dernière, la police allemande a annoncé l'arrestation d'une femme soupçonnée d'appartenir à un groupe terroriste d'extrême gauche. Elle était recherchée depuis 30 ans. Et bien dans le même temps, un journaliste d'investigation allemand qui était lui aussi sur ses traces l'a retrouvée en quelques minutes seulement avec l'aide de son ordinateur et d'un logiciel d'intelligence artificielle. Bonjour Victor Vasseur.
Bonjour.
Ce journaliste s'est servi pour cela d'une vieille photo de cette fugitive.
Daniela Kloteux était l'une des fugitives les plus recherchées d'Europe. 65 ans, soupçonnée de tentatives de meurtre, de plusieurs braquages, et disparue des radars depuis 30 ans. Pour le besoin d'un podcast de la radio publique allemande, le journaliste Michael Kolborn a tenté de retrouver la fugitive avec un simple logiciel de reconnaissance faciale, accessible à tous pour 30 euros par mois. Ça s'appelle Pim Eyes et ça permet de chercher le visage d'une personne sur Internet. Michael Kolborn a tout simplement glissé la photo d'un avis de recherche datant des années 90. Dans ce logiciel, des images apparaissent et la ressemblance est troublante malgré les années. On voit Daniela Kloteux participer à un carnaval dans les rues de Berlin. En quelques clics, le journaliste retrouve un compte Facebook avec un nom d'emprunt où la fugitive publie des photos de fleurs, réclame sa passion pour le Brésil et la capoeira. La radio publique allemande publie son podcast avec ses recherches. Puis la police arrête la fugitive 2 mois après à Berlin. Elle dit ne pas avoir utilisé le logiciel, mais l'arrestation vient valider la trouvaille du journaliste.
Bon, le journaliste a été plus rapide que la police, on le comprend. Est-ce que ça veut dire, Victor, qu'à l'avenir, on pourrait retrouver beaucoup plus facilement la trace de personnes fugitives ou la trace de personnes portées disparues?
Ce logiciel est déjà utilisé par des enquêteurs et des journalistes. Sa base de données contiendrait plus de 2 milliards de visages issus notamment d'articles de presse, de blogs, mais pas des réseaux sociaux. La force de ce logiciel, c'est sa puissance, sa capacité à relier 2 photos d'un même visage avec une décennie d'écart. Mais ce logiciel est aussi décrié, il faciliterait le harcèlement par exemple. Imaginez une personne qui prend une photo de vous dans le métro, elle pourrait être capable de vous retrouver en quelques minutes.
Merci Victor Vasseur. Voilà en tout cas de nouveaux outils pour les enquêteurs. Chargés des cold cases, ces crimes non résolus en France, un pôle dédié à ces affaires a été créé il y a 2 ans. Et parmi les cas emblématiques dans notre pays, il y a celui d'Émile Louis, tueur en série qui a frappé à la fin des années 70 dans Lyon, condamnée des années plus tard pour le meurtre de sept femmes handicapées. Cette femme de l'assistance sociale, c'était entre 1977 et 79. Je dis sept femmes, mais c'est peut-être plus. Bonjour Morgane Klein-Refait.
Bonjour.
La justice examine la piste d'une huitième victime d'Émile Louis.
Oui, son nom, Marie-Jeanne Ambroisine Coussin, une enfant de la DAS qui vivait seule en foyer sur la route du tueur en série, portée disparue en 1975, selon de nouvelles analyses ADN se basant sur les liens de parenté pour identifier quelqu'un. C'est vraisemblablement son crâne qui a été retrouvé, c'est ce qu'affirme le parquet, précisément là où Émile Louis avait indiqué enterrer ses victimes. Alors en est-elle une de plus, jusque-là totalement inconnue ? Aucun élément objectif ne permet de le confirmer, temporise le procureur de la République d'Auxerre. Je ne fais aucun lien avec Émile Louis, dit-il. Lien qui semble pourtant logique pour Pierre Monnoir, lanceur d'alerte dans le dossier des disparus de Lyon. Joint par nos collègues de France Bleu Auxerre, il réclame des fouilles plus larges du site à Rouvray, où les différents ossements ont été retrouvés. Elles n'ont pas été faites en 2001. Il va maintenant falloir les faire, réclame-t-il, car il y a peut-être, selon lui, d'autres cadavres enterrés là.
Merci Morgane. Klein-Refait, ce matin, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti s'est rendu à ce pôle dédié au cold case et ouvert il y a deux ans en France. On se souvient qu'il avait, Éric Dupond-Moretti, annoncé il y a quelques semaines des moyens supplémentaires, un autre sujet, moyens supplémentaires en magistrats et en greffiers pour les Jeux Olympiques. Et bien dans le même temps, la CGT annonce aujourd'hui qu'elle va déposer des préavis de grève pour les fonctionnaires pour la période couvrant les JO. Sa secrétaire générale, Sophie Binet.
Nous voulons que le gouvernement prenne les mesures immédiatement pour assurer la réussite des Jeux à laquelle la CGT travaille depuis des années. Il faut enfin que nos alertes soient entendues et que les Jeux soient préparés d'un point de vue social.
Mais
les Jeux, c'est des centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs qui sont percutés, avec deux questions qui se posent. D'abord, celles et ceux qui vont devoir travailler beaucoup plus que d'habitude, avec des heures sup, des congés payés qu'ils ne pourront pas prendre. Et donc, pour cela, nous demandons quelles sont les conditions sociales de ce travail. Comment est-ce qu'on va héberger tous les travailleurs et travailleuses qui devront venir en Île-de-France pour les JO, comment on va prendre en charge leurs enfants alors que ce sont les vacances scolaires? Quelles primes ils vont avoir? Pour l'instant, il n'y a rien de cadré de ce côté-là.
Sur les
pas
primes,
de
vous demandez un alignement sur les conditions des policiers autour de 1900 euros de primes.
Ben oui, pourquoi est-ce que ce qu'ont les policiers, les autres fonctionnaires ne pourraient pas l'avoir?
Sophie Binet pour la CGT ce matin sur France Info avec Jérôme Chapuis. Je rappelle que le président du comité d'organisation des Jeux, Tony Estanguet, lui demande une trêve sociale. Ce n'est pas elle qui a annoncé la mesure, mais c'est à elle de la mettre en œuvre désormais. Et c'est un casse-tête. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, chargée d'appliquer cette promesse de Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation nationale. Souvenez-vous, c'était début décembre.
Dans chaque collège du pays, les élèves de chaque classe seront répartis en trois groupes. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, en fonction de leur niveau en français et en mathématiques. Nous apportons là un changement majeur et très profond. Dans le groupe 1, celui où les élèves rencontrent le plus de difficultés, nous créerons des postes pour qu'il n'y ait qu'une quinzaine d'élèves dans ces groupes des élèves les plus en difficulté.
Des groupes de niveau dans tous les collèges, en français et en maths, pas plus de 15 élèves. C'est très clair, hein, on l'a entendu Sonia Princey. En fait, cette mesure ne verra pas le jour, en tout cas pas sous cette forme.
Oui, on peut même dire qu'on assiste à un rétro-pédalage complet. D'abord, ne dites plus groupe de niveau, Jérôme. Le mot est devenu totalement tabou. Le ministère parle de groupe. Plus question de stigmatiser les élèves et de leur mettre une étiquette. Deuxième chose, il sera possible de faire cours en classe entière à certains moments de l'année, notamment en début d'année scolaire pour évaluer les difficultés des élèves ou par exemple pour enseigner une nouvelle notion de mathématiques à tous les élèves en même temps et ensuite travailler par groupe en fonction des besoins. C'est à chaque collège de trouver son organisation. Les professeurs se réuniront deux demi-journées en juin pour fixer le cadre qui devra être présenté au rectorat, mais plus aucune contrainte, y compris sur le nombre d'élèves dans le groupe des plus faibles. Il n'y a plus de limite à 15, ce sera à l'appréciation des enseignants.
Alors pourquoi ce revirement ?
Eh bien, la principale raison, c'est le manque de professeurs. Le ministère a promis 2300 postes supplémentaires pour mettre en place ces groupes, mais à l'échelle des 7000 collèges, c'est insuffisant. Il aurait fallu rogner sur des options, supprimer des demi-groupes en travaux pratiques de sciences. Les enseignants en grève début février avaient dénoncé toutes ces conséquences. Plus de souplesse permet d'appliquer la mesure a minima. Cela va se traduire par du travail en groupe, comme ce qui se pratique déjà quand c'est possible. On est bien loin de l'électrochoc voulu par Gabriel Attal en décembre dernier.
Alors, on se souvient que les syndicats d'enseignants avaient dénoncé la mise en place de ces groupes de niveau annoncés, donc puis en partie enterrés aujourd'hui. D'où la réaction de Sophie Vénétité, secrétaire générale du syndicat d'enseignants SNES FSU. Pour elle, les groupes de niveau, c'est fini.
C'est donc bien un recul de la part de la ministre, puisque les groupes de niveau n'existeront pas à la prochaine rentrée. C'est un recul qui est à mettre à l'actif de la mobilisation des collègues depuis un mois. On a dénoncé ces groupes de niveau comme étant un objet de tri social et aujourd'hui la ministre acte qu'ils ne doivent plus exister, qu'ils n'existeront plus à la prochaine rentrée. Aujourd'hui, ce qui est encore le point d'interrogation, la ministre nous a dit qu'il y aurait du travail en groupe sans nous préciser quelles pouvaient être les configurations en dehors de nous dire que ce ne sera pas des groupes de niveau. On voit se dessiner différentes organisations. La ministre nous parle de flexibilité, de souplesse. Elle nous parle de la capacité des élèves à commencer l'année dans une classe, puis à aller dans un groupe. Tout ça est encore un peu flou. Il ne faudrait pas que la disparition des groupes de niveau se traduise par un espèce de choc de complexification qui rendrait le quotidien des collègues plus difficile.
Sophie Vénétité à votre téléphone, Sonia Princé, merci pour ces explications. Vous nous parliez du manque de professeurs en France. La solution viendra peut-être de la baisse du nombre d'élèves. 500 000 en moins dans notre pays entre 2022 et 2027, conséquence de la diminution de la natalité. Eh bien, c'est exactement le même phénomène en Chine, mais dans des proportions incomparables. Là-bas, plusieurs dizaines de milliers d'écoles ont déjà fermé et certains aimeraient profiter de cette baisse du nombre d'élèves pour réduire des classes surchargées. Sébastien Berriot est à Pékin.
Les salles de classe en Chine vont peu à peu se vider au cours de la prochaine décennie. 30 millions d'élèves sont annoncés en moins dans le primaire et le secondaire, selon une étude de l'École normale de Pékin. Les plus inquiets, ce sont les étudiants qui se destinent au métier d'enseignant. Comme cette Pékinoise qui est encore à l'université, elle s'attend à une diminution des recrutements.
Nous allons devoir améliorer notre qualité et être plus compétitifs pour éviter de perdre notre travail. Ça me préoccupe. En tout cas, les étudiants, comme moi, doivent commencer à penser à d'autres voies professionnelles.
La Chine a déjà commencé à fermer des dizaines de milliers d'écoles, comme l'explique Guo Tingting, qui travaille dans un institut de recherche spécialisé sur l'éducation à Pékin.
La politique varie d'un endroit à l'autre. Certaines municipalités proposent la fermeture immédiate des écoles dès que l'on passe sous la barre des 50 élèves. D'autres décident de fermer progressivement sur 3 ans quand l'effectif passe sous les 200 élèves.
Plusieurs députés proposent eux de conserver tous les postes d'enseignants et de profiter de la baisse de la natalité pour réduire le nombre réglementaire d'élèves dans les classes particulièrement élevées en Chine, encore 45 en moyenne et jusqu'à 80 élèves par classe dans les provinces les plus peuplées. Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
Je reviens aux ambitions contrariées du gouvernement français. Nous parlions il y a quelques minutes de ce rétropédalage sur les groupes de niveau au collège. Là, c'est la volonté d'accélérer sur la rénovation thermique des bâtiments qui est mise en doute. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour.
Depuis la réforme de MaPrimeRénov', il y a 2 mois, le nombre de dossiers de rénovation est en forte baisse.
Alors, c'est en tout cas le message, oui, que fait passer l'exécutif depuis plusieurs semaines à ses interlocuteurs, acteurs de la rénovation, dans le cadre de discussions pour simplifier un peu en urgence ce dispositif. On parle dans les ministères de forte baisse, effectivement, sur janvier-février, puisque le dispositif MaPrimeRénov', dans sa nouvelle version, a débarré début 2024, version qui, on le rappelle, hein, vise à encourager les rénovations d'ampleur et non plus de simples changements de fenêtres, par exemple. Une baisse que dit ressentir fortement la CAPEB, la Confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment, son président Jean-Christophe Repon.
Les particuliers annulent leur réflexion d'amélioration énergétique. On voit bien, nous, dans nos carnets de commandes, dans la capacité qu'on a d'avoir des appels entrants, des devis à traiter, une baisse vraiment flagrante de l'activité. Donc c'est pour ça qu'il est urgent qu'on change les règles du jeu très rapidement.
Et des arbitrages sont prévus dans les jours qui viennent sur le sujet, dit-il. Mais dans les administrations et auprès d'autres acteurs, on pose un regard un petit peu différent, Jérôme. Impossible de tirer un bilan si rapidement, il faut attendre au moins 4 mois que les choses se mettent en route, explique un expert de ce type de dispositif. Et les associations qui accompagnent les ménages, elles disent même que la demande est bien là sur ces fameuses rénovations globales. Cécile Guérin de Solia, qui fédère une centaine de structures accompagnatrices, est formelle.
On a en moyenne une augmentation de 75% d'appels, de demandes de contact par rapport au même moment l'an dernier. Nous, ce qu'on voit, c'est une forte demande des ménages pour ces travaux ambitieux. C'est des dossiers qui vont prendre un petit peu plus de temps, qui n'apparaissent pas encore ou qui sont en cours d'instruction en fait au niveau de l'ANA, mais qui vont apparaître très prochainement.
Ne nous précipitons pas, travaillons ensemble avec les artisans, mais ne changeons pas en urgence à nouveau toutes les règles du jeu, dit en substance cette association.
On a les positions des différents acteurs grâce à vous, Claire Chaudière. Donnons la parole au propriétaire. Bonjour Christophe Demerson.
Bonjour Jérôme Cadet.
Vous êtes le président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Baisse du nombre de dossiers au moment où l'on parle, dossier donc MaPrimeRénov', mais on entend le débat sur les prochains mois. Est-ce que le dispositif va prendre au fond? C'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui. Vous en pensez quoi?
Ben moi, je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir enfin un nouveau ministre du Logement avec Guillaume Kasbarian. Il vient d'arriver. Je pense que s'il a le poids politique à l'intérieur du gouvernement, c'est un stage. Il a de l'expérience. Je pense qu'il pourra un petit peu rassurer toutes les parties. Et ce que je rappelle quand même, c'est que l'immobilier, c'est le temps long. Et le temps long, effectivement, il faut apprendre aux gens à se poser.
Alors, Christophe Demerson. On a eu un tout petit problème de liaison. Ce que vous nous dites, c'est que peut-être dans les prochains mois, le dispositif va prendre après les changements d'il y a 2 mois.
Et je dis surtout qu'aujourd'hui, les Français, ils sont inquiets parce que c'est un sujet d'ampleur, c'est un sujet qui préoccupe les Français. Et qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas pourquoi. Ben, tout simplement parce que on a au-dessus de tout ça, j'allais dire entre guillemets, on a un couperet et c'est le DPE. Et le DPE, ben, comme vous le savez, il n'est pas parfait. L'outil de mesure n'est pas parfait. Et donc, j'écoutais...
Diagnostic énergétique gens...
Voilà, le diagnostic de performance énergétique. Donc, en réalité, les acteurs attendent, les Français attendent, si vous voulez, parce qu'on part sur des gros frais. Les dossiers sont encore compliqués. Il y a eu des progrès chez MaPrimeRénov', mais c'est vrai que c'est compliqué. Et donc, les gens sont un petit peu échaudés pour savoir ce qui va se passer. Il suffit d'assister à une assemblée générale. On voit des gens qui ont fait des travaux, beaucoup de travaux, et dont les notes ne bougent pas ou pratiquement pas pour le DPE, pour le diagnostic de performance énergétique.
C'est ça le principal donc, problème pour vous. Les propriétaires sont découragés. Ils font des travaux, mais ça ne change pas. Ça ne se traduit pas dans le DPE. C'est la principale difficulté pour vous.
Exactement. Et je pense que Guillaume Kasbarian, le nouveau ministre, aura le coup de main pour arriver à faire ça. Parce que d'un autre côté, tout le monde a avantage à ce que ça marche, ce dispositif. Donc, croisons les doigts, laissons-lui un peu de temps. Mais j'allais dire aussi à côté de ça, l'État doit prendre ses responsabilités. L'État doit faciliter les choses, doit mettre de l'huile dans les rouages et rassurer tous les acteurs.
Merci à vous Christophe Demerson d'avoir répondu à nos questions dans ce 13-14. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Le président de la République avait reçu, on s'en souvient, une volée de bois vert des oppositions après ses propos sur le déploiement de troupes au sol qui ne seraient pas exclues à l'avenir en Ukraine. Eh bien, Emmanuel Macron entend depuis ce matin ses critiques de vive voix puisqu'il reçoit à l'Élysée les responsables de partis et nous y serons dans un instant. D'abord, direction l'Ukraine. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour Jérôme.
En direct de Kiev, l'élection présidentielle russe débute dans une semaine. Moscou veut faire voter les territoires ukrainiens occupés depuis le début de l'invasion et les Ukrainiens s'y opposent.
Oui, ils ont d'ailleurs prévenu que ce vote serait considéré comme nul et non avenu sur les 17% du territoire ukrainien qui sont annexés par la Russie en violation complète, faut-il le rappeler, du droit international. Et dans ce contexte, les services de renseignement militaires ukrainiens ont quasiment revendiqué hier l'assassinat d'une responsable locale de la ville de Berdiansk au bord de la mer Noire. Elle a été tuée dans l'explosion d'une charge artisanale placée sous sa voiture, liquidée selon les termes utilisés à Kiev parce qu'elle était en charge justement de l'organisation de la présidentielle russe dans ces régions occupées. Elle aurait fait pression sur les populations locales pour les forcer à aller participer au plébiscite annoncé de Vladimir Poutine, alors que les consignes officielles ukrainiennes, c'est au contraire de fuir à tout prix les bureaux de vote pour des raisons de sécurité. Et ça en dit long sur la tension qui monte à mesure que le scrutin approche. Les Russes renforcent leur présence militaire dans les régions occupées et dans le reste du pays. On craint que Vladimir Poutine ne tente de multiplier les démonstrations de forces militaires en Ukraine à l'approche de sa réélection programmée.
Merci Camille Magnard en direct de Kiev pour Inter. Parmi les invités ce matin à l'Élysée à cette rencontre avec Emmanuel Macron pour parler de la situation en Ukraine, Jordan Bardella, notamment le président du Rassemblement National, pris pour cible depuis quelques jours par le gouvernement pour ses positions sur cette guerre. L'extrême droite française soutient davantage la Russie que l'Ukraine, a dit hier le Premier ministre Gabriel Attal. Marie Mollet, voilà le rassemblement Rassemblement national contraint de trouver une stratégie de défense.
Oui, le RN est parfaitement au courant. La majorité présidentielle va marteler l'argument sans cesse jusqu'au 9 juin. Le procès en poutinisme, les accusations de proximité avec le Kremlin, car c'est plus efficace que Pétain et le bruit des bottes, reconnaît un stratège Renaissance. Alors pour l'instant, cela n'a pas d'effet dans les sondages, se rassure un cadre RN, mais il faut qu'on anticipe les attaques. Alors dans l'état-major du parti, certains réfléchissent comment donner des gages à l'Ukraine sans pour autant changer de doctrine et se dédire. Peut-être en proposant d'utiliser les intérêts sur les avoirs russes pour financer un fonds humanitaire pour l'Ukraine, idée pas encore validée par Jordan Bardella. À l'Assemblée, Marine Le Pen, elle, ne sait pas encore quel sera le vote de son groupe lors du débat dans l'hémicycle la semaine prochaine. On attend de voir le texte qui nous sera soumis. On pourrait s'abstenir, grande prudence donc, pour ne pas nourrir le récit d'un RN à la solde du Kremlin. C'est le problème numéro un identifié par Jordan Bardella lui-même. C'est pour cela qu'il avait choisi de liquider le prêt russe du RN avant le scrutin, quitte à mettre son parti à l'eau et au pain sec.
Précision de Marie Mollet. Tout cela donc alors que Emmanuel Macron recevait ce matin à l'Élysée les responsables de parti. Vous êtes sur place, Simon Le Baron. Bonjour Simon.
Bonjour.
Après les attaques échangées ces derniers jours entre différents responsables politiques, on imagine une ambiance plutôt tendue. Quelle était la tonalité ?
Alors, dans les propos du président, il y a une manière d'assumer et d'assumer clairement ces propos qui ont fait tant parler, vous le savez, la semaine dernière, disant qu'il ne fallait pas exclure l'envoi de troupes au sol en Ukraine, eh bien le président de la République a enfoncé le clou en disant, selon Fabien Roussel, le patron des communistes qui vient de le dire au micro à l'instant, ou Jordan Bardella, le président du Rassemblement National qui nous l'a confirmé, le président a dit qu'il ne fallait avoir aucune limite dans le soutien à l'Ukraine, aucune limite au rôle de la France et de l'Union européenne dans les interventions à envisager pour soutenir l'Ukraine. Fabien Roussel dit que le président avait évoqué une possible avancée du front ukrainien vers Odessa ou vers Kiev en disant que c'était ce qui pourrait éventuellement engager une implication supérieure de la France et de l'Union européenne dans ce soutien à l'Ukraine. Voilà ce qu'a dit le président, je redis ces mots. Aucune limite, ce sont les mots d'Emmanuel Macron rapportés par les participants qui viennent juste de sortir il y a 5 minutes de l'Élysée. Les oppositions ont dit dans leur ensemble au président de la République que cette position était, je cite encore les propos de Fabien Roussel, grave et dangereuse. Voilà donc la tonalité d'un président, d'un chef de l'État qui assume ses propos et qui enfonce le clou.
Et nous aurons l'occasion d'écouter les réactions de ces responsables politiques dans nos prochaines éditions. Merci Simon Le Baron pour ces informations en direct de l'Élysée. Vous parliez, Simon, des élections européennes à venir. L'actuelle présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a été officiellement investie ce matin par son parti pour briguer un second mandat à la présidence. Lui ne participera pas à la campagne des écologistes pour ces élections. Le député Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, annonce qu'il se met en retrait de son parti et de son groupe à l'Assemblée en raison de la plainte déposée par son ex-compagne. Elle l'accuse de violence psychologique. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Julien Bayou en retrait, mais il va continuer de siéger.
Oui, il reste député, comme il l'était resté d'ailleurs lors de sa première mise en retrait en octobre 2022, après les accusations de son ex-compagne, accusations de violence sexiste et sexuelle et de violence psychologique. Là, la plainte, et cela fait une différence, ne parle plus des violences sexistes et sexuelles. Néanmoins, Julien Bayou, selon son entourage, a besoin de préparer sa défense puisqu'il conteste les faits. Il va donc prendre un peu de champ, mais sans abandonner sa fonction. La mise en retrait, d'ailleurs, n'est pas prévue dans le règlement de l'Assemblée nationale. C'est une décision collective du groupe ou personnelle du député. En l'occurrence, là, c'est une décision de Julien Bayou. Le député écologiste de Paris pourra siéger dans l'hémicycle, voter, continuer à travailler sur ses dossiers, mais il ne prendra plus la parole au nom du groupe. Mais surtout, comme vous le disiez, il se met également en retrait de la campagne des élections européennes, à laquelle, comme tous les écologistes, il était appelé à prendre part. Ses proches le disent serein.
Merci Laurence Perron. 4 jours après l'inscription de la liberté garantie de l'avortement dans la Constitution, l'accès à l'IVG en France va être facilité, et ce, dès la fin du mois. Les sages-femmes pourront pratiquer les IVG instrumentales seules. Victoire Dolande, la ministre Catherine Vautrin l'a annoncé ce matin.
Oui, jusqu'à présent, pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse instrumentale ou chirurgicale, c'est l'autre nom, la sage-femme devait être encadrée par 4 médecins. Désormais, avec simplement un médecin présent dans l'établissement, les sages-femmes pourront effectuer cette
cette IVG instrumentale qui consiste à aspirer l'œuf. Cela faisait des mois que ces soignantes réclamaient une simplification, car il existe encore trop de freins à l'IVG, assure Lisèle Omari, sage-femme et membre du conseil d'administration de l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes.
Plus on crée un cadre restrictif, plus on empêche l'accès aux soins. Actuellement, l'accès à l'IVG, c'est en effet un sujet. Nous sommes sur Paris, sur la période estivale, nous avons des femmes qui viennent de province pour pouvoir pratiquer l'IVG, faute de trouver des consultations sur leur secteur.
En moyenne, 17% des femmes ne peuvent pas avorter dans leur propre département, faute de disponibilité de centres ou de médecins. Plus j'ai des personnels médicaux ou paramédicaux qui potentiellement peuvent effectuer l'IVG, plus ce droit est facilité, expliquait ce matin Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Rappelons enfin que l'IVG instrumentale peut être pratiquée jusqu'à la fin de la 14e semaine de grossesse, soit 16 semaines après le début des dernières règles.
Victor Dolande, nous vous avons parlé ici même il y a quelques semaines des réserves exprimées en Bretagne sur un chalutier géant, propriété de la compagnie des pêches de Saint-Malo, tellement grand que ce navire ne peut entrer dans le port breton et qu'il doit débarquer sa pêche à l'étranger. Problème, pour commencer à l'utiliser, la compagnie doit obtenir l'autorisation de l'État. Le ministère ne l'a toujours pas délivrée et l'entreprise dit craindre pour ses 300 emplois, Céline Guettaz.
C'est une question de vie ou de mort, assure la compagnie des pêches dans ce communiqué très alarmiste. Elle explique avoir investi 15 millions d'euros pour construire une usine embarquée de surimi sur la Nelly's Helena pour continuer son activité après la mise au rebut de son ancien bateau. Tout est prêt, ne manque que l'autorisation de l'État de transférer les activités de pêche depuis l'ancien chalutier vers le nouveau. Et c'est là que ça coince. L'autorisation est bloquée, assure la compagnie des pêches. Et c'est maintenant toute l'entreprise qui serait en danger. Le dossier est sensible. La Nelly's Helena, le plus grand bateau de pêche du monde, peut capturer 400 tonnes de poissons par jour. C'est ce que pêche un chalutier artisanal en 20 ans. Ce navire est donc très critiqué par les associations écologistes et les pêcheurs de la Manche. La région Bretagne aussi s'est dite opposée à ce type de pêche. Alors les autorités auraient-elles décidé de temporiser ? Sollicité, le cabinet du secrétaire d'État à la mer n'a pas répondu pour l'instant.
Céline Guettaz, France Bleu Armorique. Le gros coup du groupe M6 qui met la main sur les droits télé des deux prochaines Coupes du Monde de football et sa chaîne M6 retransmettra les matchs en clair pour la première fois. Donc cette acquisition, annonce faite ce matin par son président Nicolas de Taverneau, qui est sur le départ. C'est TF1 qui détenait les droits jusqu'ici, mais M6 pourrait lui revendre quelques-unes de ses rencontres. Là, c'est une première depuis 10 ans. Un club français va disputer le Final Four, la finale à 4 de l'Euroleague féminine de basket. Ça tient évidemment à l'absence des clubs russes de la compétition, c'est plus facile sans eux, mais cela tient aussi à l'exploit réalisé hier soir par les basketteuses de Villeneuve-d'Ascq qui ont dominé dans leur salle les Hongroises de Miskolc, 73-58. Carmelo Scarna est le président du club de Villeneuve-d'Ascq. Il a suivi le match dans le Nord avec ses supporters et ses partenaires.
On vient de vivre un moment historique. Après avoir gagné le championnat de France, la petite coupe d'Europe comme on l'appelle, on est sur le toit de l'Europe. On a passé un moment extraordinaire. Cette victoire, c'est une récompense pour toute l'équipe, pas seulement pour moi, même si ça fait maintenant 16 ans que je suis à bord de ce bateau. On a des hauts, des bas, mais on se resserre tous autour de cette qualification historique.
Et le club de Villeneuve-d'Ascq est candidat pour organiser cette finale à 4. Ce sera du 12 au 14 avril prochain, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à 13h30, notre invitée, Bérangère Loiseau, PDG du groupe Bernard Loiseau. Depuis quelques mois, elle veille sur l'héritage de son père, figure de la cuisine française disparue il y a 21 ans, avec des projets d'ouverture de restaurants en France et à l'étranger. On en parle avec elle et avec vous, 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton avec le skater des Landes qui prépare les Jeux, Vincent Milou. Skateboard, je le rappelle, sport olympique. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Marilus Ribaud et Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Marilus, on produit trop de vin en France.
Oui, c'est une des causes de la crise actuelle. Mais face au marasme dans lequel le monde viticole est plongé, certains explorent de nouvelles manières de consommer le vin, notamment en cocktail. Et c'est peu dire qu'ils bravent un tabou.
Et avec évidemment une recette à la clé, Frédéric en salive d'avance. Frédéric qui donne la parole à un acteur.
Raphaël Persona à l'affiche depuis hier du film Boléro d'Anne Fontaine. Il nous parlera d'une chanson des Strokes qu'il a beaucoup écoutée en faisant du footing pendant le confinement.
Ah voilà, un conseil pour tous ceux qui courent. Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Écoutez bien, le bassin d'Arcachon en haute saison. Et maintenant, le bassin d'Arcachon le reste de l'année. Vous avez entendu la différence ? Non ? Nous non plus.
Bassin d'Arcachon, un monde à part, un monde à partager.
Enfin, au livre de poche, le roman bouleversant de Gaël Nohan. Le bureau d'éclaircissement des destins. À l'ITS, le plus grand centre sur les persécutions nazies, Irène a une mission. Rendre les objets des déportés à leurs héritiers. Et chaque objet a ses secrets. Le bureau d'éclaircissement des destins, de Gaël Nohan, au livre de poche.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est une journée calme et ensoleillée.
Oui, du soleil et ça fait du bien. Alors un soleil quand même un petit peu voilé de la Bretagne et des Charentes vers le Berry, le Massif central et la Méditerranée. Sur la Corse, un petit peu plus de nuages, parfois une petite averse. Sur le Languedoc-Roussillon et le sud du Massif central, là le vent de sud à sud-est se renforce. Il va apporter des nuages sur le Languedoc, parfois quelques gouttes. Ça souffle fort sur les Pyrénées jusqu'à 90 km à l'heure, 80 pour le vent d'automne et ça va se renforcer encore la nuit prochaine. Les températures, elles sont un petit peu au-dessus des valeurs de saison, avec 11 à 14 degrés au nord, 14 à 17 au sud, jusqu'à 18 à 20 au pied des Pyrénées. Et pour la fin de la semaine, un temps perturbé va à nouveau s'imposer. Ce sera très agité au sud vendredi et samedi, avec de fortes rafales de vent, des pluies copieuses, surtout du Languedoc et des Cévennes, vers la Provence, le sud des Alpes et la Côte d'Azur.
Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Bérangère Loiseau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous avez 34 ans. Vous êtes avec votre frère Bastien et votre sœur Blanche, l'un des trois enfants de Bernard Loiseau, l'un des chefs qui a marqué la gastronomie française de ces 50 dernières années. Parti de rien, votre père avait hissé son restaurant et ses 80 salariés jusqu'aux 3 étoiles du Michelin avant de se donner la mort. C'était en février 2003, ce qui avait provoqué une onde de choc dans le pays. Vous aviez 13 ans à l'époque et aujourd'hui vous reprenez le flambeau à la suite de votre mère, Dominique, qui elle a tenu la barre pendant près de 20 ans. Vous êtes devenue il y a quelques mois la PDG du groupe Bernard Loiseau, puisque c'est un groupe désormais 120 salariés, 2 hôtels, 5 restaurants, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, un groupe qui souhaite s'exporter. Vous allez inaugurer dans quelques jours un restaurant à l'étranger, ce sera au Japon. On va en parler de cette histoire familiale, de votre parcours, de votre goût pour la cuisine, bien sûr, même si c'est pas vous qui êtes en cuisine, je le précise, et j'attends sur tous ces sujets les questions des auditeurs de France Inter. 01 45 24 7000, vous passez également via l'application d'Inter. Je remercie également nos collègues de France Bleu Bourgogne qui vous accueillent aujourd'hui. Bérangère Loiseau, PDG à 34 ans seulement, c'est jeune, même si c'est votre héritage, c'est votre histoire familiale. Pourquoi avoir accepté maintenant ?
Eh bien écoutez, cette belle entreprise, c'est ma maison. J'ai même habité pratiquement 2-3 ans des premières périodes de ma vie. Donc j'ai littéralement appris à marcher dans cette maison. Donc c'est vraiment la mienne et j'ai pu constater tous les sacrifices que mes parents ont fait pendant toute leur vie pour porter, comme vous l'avez dit, cette gastronomie et cette excellence au plus haut. Et donc moi, il est hors de question que la maison s'arrête et j'ai bien envie de crier haut et fort partout dans le monde entier que la France est belle, notre héritage est beau et que nous avons des terroirs et des savoir-faire extraordinaires.
Ce que vous nous dites, c'est que vous n'aviez pas le choix. Il fallait reprendre le groupe. C'était maintenant, c'était l'heure.
Oui, c'était l'heure. C'était l'heure parce que ma mère a tenu pendant 20 ans la maison. Elle a connu des périodes qui n'étaient pas faciles. Mmh. Et puis, bah voilà, nous, on a maintenant, Blanche et moi, cette niaque, l'oiseau. Et on a cette envie. On a envie de continuer à développer la maison, que ce soit à Beaune, Besançon, Dijon, et puis bien sûr, embellir le grand domaine de Saulieu.
Vous aviez 13 ans, je l'ai dit, lorsque votre père s'est donné la mort. Je voudrais qu'on le réécoute parce qu'il avait évidemment une personnalité exceptionnelle, particulière, ce phrasé, cet enthousiasme.
Nous sommes des marchands de bonheur. Le client est tout. À chaque fois, je le dis, je suis un entraîneur. Il faut toujours se dire, les enfants, on fait un match. Vous devez être là, tous en mêlée. Moi, je dis, c'est un match de rugby, c'est la finale, vous voyez, du tournoi des 5 nations. On est là, tête contre tête et tout, en disant, on est les meilleurs, il faut que nos clients reviennent. Et puis, ils le disent aux autres, parce que c'est bien de garder ses clients, mais il faut en trouver d'autres clients. Et je leur dis aux gens, vous venez ici pour oublier vos soucis. Vous êtes sur une autre planète. Vous êtes sur la planète de l'amour du prochain. Pour faire le métier que je fais, il faut avoir un cœur gros comme ça. Et si je veux aller là, c'est dire aux jeunes, rien n'est perdu, petit. T'as pas ton bac, c'est pas grave. Mais ce que tu fais, fais-le avec amour et va jusqu'au bout de ce que tu veux faire et tu seras le meilleur.
On entend la passion de votre père, un extrait d'une interview de 2001. Quel souvenir vous gardez de lui ?
Oh là là, mais que des souvenirs merveilleux. Et effectivement, il nous portait, nous, au quotidien, avec cette énergie incroyable. Moi, quand il me déposait à l'école le matin, il me regardait dans les yeux, il me disait « Attention, hein, à l'école, c'est 3 étoiles, Bérangère, au taquet, au taquet. » Donc on est vraiment tous, et même parmi les équipes, très très imprégnés par voilà, cette énergie, comme il le disait, cet amour du prochain. Et c'est pour ça que nous aussi, on est là au quotidien. C'est parce qu'on aime les autres qu'on fait ce métier. On est au service des autres pour leur faire passer un moment inoubliable, un moment d'émotion. Et moi, très franchement, je trouve que c'est le plus beau métier du monde.
Vous ressentiez à l'époque le stress, la pression qui pesait sur lui, lui qui vivait avec la hantise de voir ce qu'il avait bâti s'effondrer ?
Alors, oui, moi je l'ai ressenti de sa part. Hein. Pour lui, de toute façon, depuis qu'il avait 15 ans, avoir une 3e étoile, c'était son obsession totale. Ouais. Nous, c'est différent, c'est effectivement un objectif, mais ça n'est pas une obsession. Nous, on avance au jour le jour, on a un cap que j'ai fixé et on est tous alignés.
Vous avez 2 étoiles aujourd'hui, vous avez perdu la 3e, je crois, c'était en 2016.
Oui, tout à fait. Mais on met tout en place pour que celle-ci rebrille à Saulieu et on continue aussi les ouvertures en dehors de Saulieu.
Mais vous aviez perçu cette fragilité chez lui à l'époque ?
Bah écoutez, oui, ça a
c'est
toujours été...
C'est dur quand on est enfant, évidemment.
Oui, oui, voilà, moi j'avais 13 ans, c'est difficile pour moi de porter un regard à cette époque-là, mais c'est vrai qu'avec le recul, j'ai tout de suite compris cette hypersensibilité, hein. Moi c'est plutôt comme ça que je l'interprète. Mais oui, écoutez, pour être un homme aussi, avec autant de génie et un être autant d'exception, il y a forcément un déséquilibre, et je pense qu'il était vraiment hypersensible.
Et vous vous êtes toujours dit, Bérangère Loiseau, que vous reprendriez cet héritage ?
Ah, moi toujours. Depuis que je suis toute petite, toujours. D'ailleurs, dès que j'avais 12-13 ans, je bossais à la boutique, à la réception, j'aidais à refaire les chambres, etc. Donc moi, c'était inenvisageable pour moi d'évoluer ailleurs que dans cette maison.
Il n'y avait pas cette volonté peut-être d'aller voir ailleurs, de sortir du destin qui était tracé finalement pour vous ?
Non, pas une seconde. Alors en revanche, moi, pendant mes études supérieures, j'avais un petit peu de stress parce que je me disais, mais bon sang, entre Dominique et Bernard Loiseau, mais qu'est-ce que moi, je vais bien pouvoir apporter à cette maison ? Et c'est pour ça que je suis partie en agence de publicité à New York, en cabinet d'audit chez Mazars, et justement pour mettre un maximum d'expérience dans mon sac pour pouvoir quand même pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice.
Vous avez parlé de votre mère, Dominique. Elle s'est retrouvée après la disparition de votre père il y a 21 ans avec ses 3 enfants, avec une entreprise. Un groupe à préserver, une entreprise qui faisait sans doute des envieux d'ailleurs à l'époque. Elle a tenu. Est-ce que vous vous demandez encore aujourd'hui comment elle a fait ?
Alors, je ne me demande pas comment, parce qu'elle l'a raconté dans son dernier livre, La revanche d'une femme, qu'elle a publié très récemment. Elle a une résilience extraordinaire en elle. Et effectivement, quand on connaît son parcours, on comprend un petit peu où est-ce qu'elle a puisé cette force. Mais oui, elle a connu des moments extrêmement difficiles et le message qu'elle a dans ce livre, il est pour toutes les femmes, c'est celui de se dire, les filles, arrêtez de vous questionner toutes les 5 minutes, vous remontez les manches et vous foncez. Vous allez y arriver.
C'est aussi simple que ça ?
Ben écoutez, en tout cas, elle venait d'une toute petite famille en Alsace, d'un tout petit village. Donc écoutez, si elle a bien réussi, n'importe qui peut réussir. Mais il faut se donner les moyens. Et nous, les femmes, arrêtons de nous poser des questions. De la même manière que moi, je m'en suis posée à 34 ans quand on m'a dit « Bon, écoute, je pense que t'es prête, vas-y, accepte le job de PDG. » Bon, je me suis posée 2-3 minutes, je me suis dit « Mais jamais je vais y arriver. » Et puis après, j'ai pensé à ma mère, justement, et je me suis dit « Bah, elle y est arrivée, pourquoi pas moi ?»
Vous grandissez, Bérangère Loiseau, avec un nom célèbre. Il y a toujours les comparaisons dans ces cas-là entre les enfants et les parents. Et vous, on vous dit « Mais pourquoi tu fais pas d'école hôtelière ?» Et ça, ça revient dans votre parcours.
Oui, c'est vrai. C'est quand j'ai présenté Sciences Po, effectivement, on m'a dit « Mais vous êtes la fille de Bernard Loiseau, pourquoi est-ce que vous faites pas une école hôtelière ?» Bon, c'est vrai qu'on est vite catégorisé, mais... voilà, nous, on a eu la chance que nos deux parents nous laissent libres de nos choix. Ils nous ont montré les bons et les mauvais côtés de ce métier-là. Donc, moi, en tout cas, pour ma part, j'ai vraiment fait le choix avec mon cœur.
Et donc, pourquoi pas la cuisine ? Pourquoi pas comme votre sœur,
Blanche ? Eh bien, parce que tout simplement, c'est ma sœur Blanche qui a hérité du feu sacré. C'est elle qui est chef et qui a fait l'ouverture de notre restaurant à Besançon, l'Oiseau du Temps. Et c'est elle qui va partir faire l'ouverture de Tokyo. Mais j'ai quand même passé mon CAP cuisine, hein.
D'accord, parce que vous vouliez quand même savoir comment ça fonctionne. Mais ça veut dire simplement qu'à un moment, dans votre parcours, vous êtes dit peut-être plus doué pour faire du commerce, plus doué pour d'autres aspects du travail de restaurateur que tout simplement faire la cuisine.
Oui, c'est ça, tout à fait. Et puis ma sœur était tellement passionnée que finalement, la répartition des rôles s'est imposée comme une évidence.
C'est fait assez naturellement, puisque ça se passe toujours en famille. Chez vous, chez les Loiseau, les appels, les questions des auditeurs de France Inter, 01 45 24 7000. Marie nous appelle de Paris. Bonjour Marie.
Bonjour.
Nous vous écoutons, je crois que c'est un témoignage plutôt.
Ah oui, c'est un très très beau témoignage et je suis très émue et très contente qu'elle reprenne comme ça le flambeau de son papa qui nous a accueillis. J'étais très jeune, une jeune épouse, j'avais 25-26 ans avec mon petit garçon qui avait à peine 5 ans. Il nous a accueillis, il a été surpris parce que c'est vrai que moi j'adore faire la cuisine dans ma famille, on fait la cuisine et j'ai repris aussi ce plaisir. Mais cette générosité qu'il avait, cet accueil, vraiment, j'ai été très touchée lors de sa disparition. Il nous a fait visiter toutes les cuisines, enfin la cuisine, et j'ai été très surprise parce que qu'un chef fasse visiter, c'est surprise, et j'ai été enthousiasmée d'abord, bien sûr, par la qualité du plat, et j'ai été émerveillée par cet accueil, et puis cette générosité, et surtout le service et les mets. Donc j'en ai gardé un immense souvenir et je dois dire que sa femme qui a repris le flambeau avec un tel courage pour surmonter tout ça, c'est vraiment pour moi ça a été un choc de sa disparition et je suis ravie que sa fille ait l'héritage comme ça de reprendre cette passion.
Vraiment. Vous vous souvenez de ce que vous aviez mangé, Marie ?
Alors écoutez, oui, j'avais mangé ce que j'avais jamais mangé avec mon fils. Bon, il avait pris des escargots, mais j'avais pris une volaille. Alors, je sais plus très bien ce que c'était, mais c'était vraiment succulent. C'était un plat, des plats gastronomiques.
La poulard d'Alexandre
Dumaine. Voilà, c'est ça. Magnifique. Ça date de 75-76.
Merci.
Et merci à vous de reprendre ce flambeau. Et vraiment, bon, j'étais
à la
goutte
d'or. C'est grâce à vous que ça continue.
Merci Marie pour votre témoignage.
Plein de bonnes choses pour vous.
Merci de nous avoir appelé. Elle est toujours à la carte, Bérangère Loiseau, la poularde ?
Oui, absolument, la poularde d'Alexandre Dumaine. Ça, c'est un mythe, et de la même manière que nos jambonnettes de grenouille, qui est vraiment le plat qui a propulsé papa dans la troisième étoile. Ouais.
Quel est l'héritage de votre père en cuisine aujourd'hui, 20 ans après, ses grands préceptes qui demeurent ?
Ah, mais l'héritage Bernard Loiseau, il est énorme. Et d'ailleurs, il a contribué à faire évoluer la gastronomie française vers ce qu'on connaît actuellement. Et là, il a vraiment une signature culinaire qui est très, très propre et que nous, on met en place dans tous nos plats, c'est-à-dire des goûts qui sont vraiment très francs, très tranchés, une vraie gourmandise autour des sauces et surtout aucun compromis sur les produits. Et Bernard Loiseau a vraiment été le tout premier défenseur des artisans. On le voyait beaucoup à la télé, certes, mais si vous écoutez bien, il ne parle que des artisans et des producteurs.
Pas plus de 3 saveurs maximum dans l'assiette ?
C'est ça, pas plus 3 saveurs dans l'assiette, et c'est pas facile d'ailleurs.
Parce qu'au-delà, surtout, quoi, on se perd en fait, le goût se perd ?
Oui, c'est ça.
Et on est dérouté ?
Oui, c'est ça. Et surtout, lui voulait absolument garder aux choses le goût de ce qu'elles ont. C'est-à-dire que lui, il n'était pas là pour masquer, etc. Il était là pour sublimer le produit. Donc plus vous en mettez, en fait, plus on s'éparpille et plus on est perdu. Lui, c'était vraiment un puriste, un vrai puriste du goût. Il a retiré les gras superflus, le sucre dans les desserts, pour vraiment être sur des goûts très, très, très concentrés.
Et réduire les gras et les sucres aussi ? Ça, c'est ça. Aussi l'un des préceptes ?
Exactement. Et là, on est dans les années 70. Hein, donc, en fait, c'était très drôle parce qu'il y avait une petite guéguerre entre Paul Bocuse et lui. Il y avait Monsieur Paul qui disait « Bernard, le beurre, le beurre, le beurre !» Et puis Bernard Loiseau qui disait « Mais non, mais non, mais non !» Et effectivement, il a retiré les roux, donc ce mélange de farine et de beurre qui venait épaissir les sauces. Il a inventé la liaison des sauces à la purée de légumes. Tout ça dans cette optique d'alléger et d'être vraiment sur la pureté du produit.
On a parlé tout à l'heure de la quête des 3 étoiles au Michelin, c'était il y a 20 ans lorsque votre père a disparu, le Graal ultime pour les chefs. Depuis, beaucoup s'en sont distanciés en disant qu'il y avait d'autres voies que celle-ci. Quel est votre regard, vous, aujourd'hui ? Il faut aller aux 3 étoiles ou alors finalement, peu importe ?
Bah, tout est vraiment une question de positionnement pour vous. C'est-à-dire que soit vous choisissez de faire du bistrot, comme nous on fait dans tous nos autres restaurants, soit vous faites du 1, du 2 ou du 3 étoiles. C'est vraiment une question de positionnement. Parce qu'après, la prestation est tout à fait différente. Donc c'est un parti pris. Michelin a plus d'un siècle d'existence et toute la cuisine française doit lui tirer son chapeau. Maintenant, voilà, nous, personnellement, on avance au quotidien avec nos clients. Et la 3e étoile est un objectif, mais pas une obsession.
D'un mot, ouverture d'un restaurant à Tokyo, oui. C'est dans quelques jours. C'est ça, le Japon où votre père a tenu un restaurant pendant quelques années, il me semble.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que je suis vraiment très, très émue de pouvoir rouvrir à nouveau. Il avait un restaurant qui était la réplique exacte de celui de Saulieu à Kobe, de 92 à 95. Et 95, il y a eu un tremblement de terre des plus meurtriers du Japon qui a tout mis par terre. Et donc voilà, 20 ans plus tard, on arrive à continuer et à ouvrir un nouveau restaurant au Japon, qui est un pays merveilleux, une clientèle qui nous aime énormément.
Dernière question, Bérangère Loiseau. Alors, ouverture au Japon, très bien, nous dit Greg. Pourquoi ne pas ouvrir un restaurant aux origines de la famille à Messé, là où votre père a appris la soupe d'ortie ? Où est-ce que ça se trouve ?
C'est une très très bonne question. Clermont-Ferrand, ça me tente bien, moi.
C'est à côté de Clermont, c'est ça ?
C'est un petit hameau, donc à part les vaches, je suis pas sûre d'avoir beaucoup de clients. Mais effectivement, papa était auvergnat.
D'accord, donc c'est dans le Puy-de-Dôme, mais il n'y a pas d'ouverture promise, ou en tout cas envisagée pour l'instant.
Non, mais j'y pense.
Dans ce département, de ce que je comprends, le fief de la famille, c'est en Bourgogne, je le rappelle, à Saulieu. Merci à vous, Bérangère Loiseau, d'avoir accepté notre invitation. Merci également à France Bleu Bourgogne pour la liaison technique. 13h45 sur Inter. Une semaine dans leur vie. Nous suivons notre spécialiste du skateboard depuis lundi, Vincent Milou, dans sa préparation olympique. Ça se passe chez lui dans les Landes. Un sportif qui décline la glisse dans toutes ses dimensions. Illustration aujourd'hui, Vincent a donné rendez-vous à quelques amis, plage des Bayonnais à Cap-Breton, tôt le matin, pour une session de surf sous l'œil de notre reporter Guillaume Batin.
C'est vraiment dangereux, tu vois la fin ?
Bah là c'est trop encore.
Ouais, mais même plus bas c'est super dangereux, le jus il te... C'est bizarre, il y a une marche, un short break, mais t'as pas pied et le jus il te tire vers le bas et il doit avoir 2 ou 3 mètres de profondeur. Et c'est vraiment hyper dur d'en sortir. L'autre jour j'ai failli me noyer, il y avait 1 mètre. C'est un truc de ouf.
On est où Vincent ?
On est pas loin de chez moi, dans la forêt, un peu perdu et on est seul au monde. On est au bord de l'eau, vu sur les Pyrénées, entre la forêt, les Pyrénées et l'océan. C'est assez unique. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup voyagé grâce au skate. Il n'y a vraiment quasi aucun endroit du monde où tu as ces 3 conditions parfaites réunies. C'est vraiment une chance d'ouf de vivre ici.
Groupe de copains tout seul ?
Ouais, ouais. C'est pour ça que c'est bien d'être ici. Ouais.
C'est quoi l'idée de la matinée, d'arriver ici au petit jour, dans la fraîcheur, au lever du soleil ?
C'est d'être tranquille, il n'y a personne. Bon, l'hiver, avec le froid, il n'y a souvent pas grand monde, mais c'est de voir le lever du soleil à travers les pins, le ciel, il est rose, les oiseaux chantent. Moi, j'ai un vélo, je passe par-dessus une petite rivière avec un pont, c'est magnifique, c'est trop bien. L'idée, c'est de faire un tour de vélo le matin, se lever tôt, commencer la journée, et pourquoi pas avoir quelques vagues en plus, ça, c'est le bonus, quoi.
Le surf, c'est un sport cousin du skate ?
Ouais, complet. Ça dépend pour qui. Mais moi, j'ai grandi avec la chance d'avoir l'océan à côté, une famille qui faisait vachement d'activités extérieures, du vélo, la plage. On avait toujours des planches de surf ou comme ça. Bon, l'excitation monte. D'ailleurs, celle-là, Vince, ça va être dingue.
Les vagues d'aujourd'hui, c'est puissant, ça casse au bord, c'est dangereux.
Ouais, pour la plupart des champs, ouais, c'est dangereux. J'adore ça, mais ouais, j'ai l'habitude. jeune. On est souvent les plages d'ici, c'est vrai que les vagues cassent très près du bord, ça peut être très dangereux, mais quand on est un peu, on s'y habitue, c'est comme tout, quoi. Donc ça s'y fait. C'est une vraie passion, plus que le skate presque.
Est-ce que quand on fait du surf, on répète aussi ses gammes du skate? Est-ce qu'il y a des points communs?
Non, on en parlait justement avec le kiné, on se disait que peut-être deux jours avant d'aller à une compète comme ça, c'est peut-être pas bon d'aller surfer. En surf, tu passes pas beaucoup de temps debout, tu passes plus de temps allongé, à ramer. T'es pas sur les mêmes plans, horizontaux et verticaux. Mais c'est clair que quand je dois faire une pause de skate ou en fin de blessure, c'est un bon moyen pour me rééduquer, reprendre des mouvements sans qu'il y ait de contraintes. C'est assez doux le surf, tout dépend ce qu'on surfe comme type de vague, mais ça peut être assez doux. Et ça me permet de faire autre chose, libérer, c'est surtout pour libérer mon esprit, penser à autre chose, être dans la nature, pas être dans le béton, dans le concret, dans la ville, dans le bruit. Ça me permet vraiment de me libérer, ça me fait énormément de bien, j'adore ça. C'est comme prendre du temps pour moi, quoi. C'est vraiment bien.
Bientôt la combi ?
Bientôt la combi, j'attends que la marée descende un peu et je vais m'y coller. Le froid, ça me prend un peu, c'est bien, j'adore. Non, il fait bon aujourd'hui pour une journée de février, franchement, il fait super bon. Normalement, c'est plus 2 degrés au lever du jour là qu'il fait, quand je me change. Et dans l'eau, elle est à 13. L'eau, elle est très bonne, du coup, combi cagoule et c'est bon. Tout baigne.
Ah oui, combi quand même pour aller dans l'eau avec cette température. Suite et fin demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France à 13h49, le jeudi, nous parlons gastronomie avec Marilus Ribaud du journal Sud-Ouest en direct de Bordeaux. Marilus, le vin se vend moins bien en France, on le sait, on en produit trop. Alors les vignerons se demandent que faire de ces litres qui leur restent sur les bras.
La vie est en effet très dure pour le petit vin pris au comptoir du bistrot. La consommation a baissé de près de 70% en 60 ans. Elle est encore glorieuse pour les grandes bouteilles vendues à prix d'or. Mais pour combien de temps? Une récente enquête du Monde met en évidence le désamour des jeunes générations pour le vin. Un chiffre est éloquent. En 2002, 4,5% des adolescents n'avaient jamais bu d'alcool. Ils étaient 20% en 2020. Qu'ils soient rouges, blancs ou rosés, le vin est à leurs yeux une boisson lourde et complexe. Il faut bien sûr se réjouir de l'efficacité des campagnes contre l'abus d'alcool. Jérôme, savez-vous que si vous aviez vécu au 19e siècle, vous auriez vraiment eu du mal à tenir le micro aujourd'hui, puisque selon les statistiques, vous auriez bu, comme tous les Français de l'époque, plus de 200 litres de vin dans l'année. Il faut donc s'en réjouir, mais se demander comment cette boisson érigée en patrimoine national peut retrouver toutes ses couleurs.
Et certains explorent de nouveaux chemins.
Certains font sauter le tabou, écorchent cette image figée du vin en majesté. Les Espagnols ont frappé les premiers puisqu'ils n'hésitent pas à délayer leur rouge avec des glaçons et du soda, le fameux tinto de verano. Aurélie Caro, une viticultrice bordelaise, ingénieure agronome et œnologue, a multiplié les expériences. Ce printemps, elle va lancer Élitre, son premier vermouth, mélange de sa production avec de l'eau de vie, de vin, de l'absinthe, des agrumes, du romarin et de la vanille. La situation est critique. Autant innover, nous dit-elle. Se diversifier, c'est prendre un risque, mais c'est aussi exister. Je resterai toujours une grande amatrice des vins rouges bordelais, mais je crois aussi au retour des vieux apéritifs qu'on allonge avec un tonique.
Et puis les spécialistes des cocktails, ce qu'on appelle les mixologues, s'intéressent eux aussi de plus en plus au vin.
C'est le cas de Jérémy Loyer, meilleur ouvrier de France en 2023. De plus en plus souvent, d'ailleurs, des vignerons de Provence ou du Bordelais l'appellent pour qu'il leur ouvre les chakras. On commence à comprendre qu'un cocktail avec du vin fourmille d'arômes et est beaucoup plus léger qu'avec un alcool blanc, nous dit-il. La palette est infinie, je la module en fonction des saisons. En hiver, je propose du rouge allié aux épices et aux agrumes. Au printemps, j'aime les blancs avec de la poire ou du pomelo. L'été, le rosé s'accorde avec la pêche blanche chez les fraises. En automne, la figue s'associe à merveille avec les moelleux. Jamais le goût du vin ne passe au second plan. Il se découvre autrement.
Et le vin pourrait peut-être aussi renouer son histoire avec la cuisine.
Ce sera sans doute plus compliqué et le débouché plus anecdotique, mais pourquoi pas? Pour Ségolène Lefebvre, historienne, autrice du vin dans la cuisine aux éditions Confluence, la France est le seul pays à avoir développé une gastronomie rattachée à ses terroirs viticoles. Elle s'est formalisée au Moyen-Âge, d'abord parce que le vin a eu une fonction de conservation des aliments. Depuis, la daube bourguignonne ou provençale, la lamproie à la bordelaise, le poulet de Bresse au vin jaune sont devenus des plats emblématiques. C'est une cuisine qui prend son temps, nous dit-elle, une cuisine qui dégage des odeurs, des saveurs incroyables et qui est surtout très bon marché car elle utilise des bas morceaux. Ne serait-ce que pour cela, on devrait la relancer.
Terminons avec une petite recette, Marie-Luce, à base de vin.
Ce sera un cocktail de Jérémy Loyer. Ne craignez rien, on trouve tous les ingrédients au supermarché. Mélangez à 75 centilitres de vin blanc sec, 45 centilitres de verjus, 18 centilitres de liqueur de poire et 12 centilitres de sirop de fleur de sureau. Stockez au réfrigérateur. Servez dans des verres décorés d'une lamelle de poire fraîche. Et consommez bien sûr avec modération.
Excellent. Moi, je propose qu'on remplace la poire par la pomme et qu'on bâtisse ce cocktail. Le pommier, par exemple. Ça aurait beaucoup d'allure. Merci Marie-Luce Ribaud en direct de Bordeaux et merci à France Bleu Gironde pour la liaison. C'est la France. Ah, c'est une chanson donc et c'est le comédien Raphaël Persona que l'on retrouve à votre micro, Frédéric Pommier.
Il est actuellement à l'affiche du film Boléro d'Anne Fontaine aux côtés de Dora Tillier, Emmanuel Devos et Jeanne Balibar. Notamment, le film raconte le processus qui a conduit à la création du Boléro, l'œuvre la plus célèbre de Maurice Ravel et l'œuvre classique la plus jouée dans le monde. Raphaël Persona est très convaincant dans le rôle du compositeur. Et c'est d'une chanson des Strokes qu'il a choisi de me parler, Ode to the Meat.
Ce qui me lie à cette chanson, c'est le confinement. C'est vraiment le début du premier confinement où moi je suis en train de tourner une série sur l'opéra. Le tournage s'arrête brutalement après 2 semaines. Et il nous reste 3 mois à faire. Et là, je dois maintenir absolument un poids pour faire le directeur de la danse de l'Opéra de Paris. Et on vous dit, donc, on est confiné, on va pas bouger, etc. Et je me dis, alors, comment maintenir ce poids? C'est, vous voyez, c'est très trivial. Et je découvre ce morceau des Strokes en courant tous les jours. Je tournais en rond autour de plusieurs pâtés de maison. C'est comme ça, c'est un peu ridicule. Et puis, on avait 1 heure, donc ça correspondait à la longueur d'un footing classique.
Il y a plein de gens qui ont pris du poids pendant le confinement.
Ouais.
Pour ne pas en prendre, vous décidez de courir tous les matins, avec notamment cette chanson dans les oreilles. Est-ce que cette chanson, elle vous a permis de ne pas prendre de poids du coup?
Absolument. Elle m'a même permis d'en perdre.
Up on his horse, up on his horse, not gonna wake up here anymore. The summertime, it's not the truth, it's just a story I tell to you.
C'est en 2020 qu'est sortie cette chanson des Strokes, Frédéric.
Et comme Raphaël Persona, l'écoutez donc en faisant son footing dans son quartier pendant la période du confinement. Eh bien, ce morceau est devenu pour lui comme un hymne à la liberté.
Oui, c'était des moments de liberté dans une espèce de chaos qu'on réalisait pas sur le moment, mais moi, c'est une période où, quand on me rappelle certaines choses qu'on a vécues, j'arrive même pas à croire que c'était à peine il y a 4 ans, et je crois que chacun avait besoin de s'évader d'une manière ou d'une autre, et moi, c'était ce morceau-là. C'est une bonne chanson pour s'évader, ouais. Parce que il y a un moment où il part vraiment, il chante très fort, et cette idée-là de pouvoir s'exprimer à plein poumon. Je pense que j'ai dû, pendant mes courses, chanter en même temps, un peu haletant. Il y avait ce besoin-là, ouais, d'extérioriser cet enfermement, si on peut dire, hein, en relativisant les choses. Mais c'était un appel d'air, ce morceau.
I was just born playing the guitar.
Est-ce que vous aviez des images au moment où vous entendiez cette chanson-là ? Des paysages ?
Ah, des paysages, sans doute, oui. Ça, ça serait des paysages méditerranéens. Je crois que c'était une des choses qui me frustrait le plus pendant cette période-là. C'était de voir la mer, tout simplement, de voir l'horizon. Prendre le large, c'était ça.
Il y a un lieu en particulier ?
Oui, oui, moi je suis très lié à la Grèce, parce que ma mère est traductrice de grec, parce que depuis la plus tendre enfance, je vais là-bas et je suis atteint d'un mal qu'on appelle le nostos, un terme grec pour dire le mal du pays, même quand on n'est pas de nationalité grecque. Et ça, c'est un sentiment que j'ai en moi très souvent, que j'ai là d'ailleurs, là maintenant.
Donc cette chanson, elle vous emmenait un peu en Grèce ?
Bah écoutez, je pensais pas vous dire ça au début, pas du tout, mais vous m'avez emmené là-bas. C'est une étape dans ce voyage musical que j'accepte totalement. Quand on est vraiment sorti de cette période de confinement, les trois, là je pense que j'ai totalement abandonné tout ce qui me rappelait cette période. Il y a eu une forme de rejet, je pense, de ce morceau. Je ne l'ai plus écouté, c'est en venant dans votre émission. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être ce morceau-là que je peux réécouter maintenant plus calmement.
Ans déjà pour le confinement. Ode to the Mets, The Strokes. C'était donc Frédéric, le choix de Raphaël Persona.
Raphaël Persona que vous pouvez retrouver au cinéma dans le film Boléro d'Anne Fontaine où il incarne Maurice Ravel.
La musique toujours. Merci Frédéric et à demain dans quelques minutes. La Terre au carré, Mathieu Vidard et un hommage à l'explorateur Jean Mallory.